Bon anniversaire, ma blanche. Pour tes 11 ans, le loup t'a enregistré deux histoires, deux contes des mille et une nuits. Le premier conte est l'histoire des voyages de Sindbad le marin. Première cassette, première face. Sous le règne du calife, c'est-à-dire du roi, Haroun al-Rachid, il y avait à Bagdad un pauvre homme de peine nommé Hindbad. Un jour, par une chaleur excessive, il s'assit devant une maison de belle apparence et entendit les sons d'un concert harmonieux. « Mon Dieu, s'écria-t-il, que le propriétaire de cette maison est heureux. Pourquoi mon sort est-il si différent du sien? Quel mérite lui ont valu tant de prospérité? Quelle faute ai-je commise pour justifier ma misère ?» À peine eut-il prononcé ces mots qu'un esclave sortit et l'invita à entrer de la part du maître de la maison. Hindbad fut introduit dans une salle magnifique où la table était dressée. On voyait à la place d'honneur un personnage grave, bien fait et vénérable, et derrière lui était une foule de serviteurs fort empressés à le servir. C'était le maître de la maison. Il dit à Hindbad de s'asseoir et de prendre part au festin. Sur la fin du repas, il adressa la parole à Hindbad et lui dit « Mon nom, que tu dois connaître déjà, est Sindbad, et tout le monde m'appelle Sindbad le marin. Tu t'imagines sans doute que j'ai acquis sans peine et sans travail toutes les commodités et le repos dont tu vois que je jouis. Désabuse-toi, je ne suis parvenu à un état si heureux qu'après avoir souffert pendant plusieurs années, tous les travaux du corps et de l'esprit que l'imagination peut concevoir. Tu n'as peut-être entendu parler que confusément de mes étranges aventures et des dangers que j'ai courus sur mer dans les 7 voyages que j'ai faits, et puisque l'occasion s'en présente, je vais en faire un rapport fidèle, je crois qu'on ne sera pas fâché de l'entendre. » Premier voyage de Sindbad le marin. J'étais jeune et j'avais dépensé la plus grande partie de ma fortune. Réduit à un état voisin de la misère, je vendis le peu de choses qui me restaient et me rendis dans le port de Balsora, où je m'embarquai avec plusieurs marchands sur un vaisseau que nous avions équipé en mettant les dépenses en commun. Nous mîmes à la voile et nous prîmes la route des Indes orientales par le golfe Persique. Dans le cours de notre navigation, nous abordâmes à plusieurs îles et nous y vendîmes ou échangeâmes nos marchandises. Un jour, nous descendîmes sur une petite île presque au ras de l'eau qui ressemblait à une prairie par sa verdure. Le capitaine fit plier les voiles et permit aux passagers de prendre terre. Je fus du nombre de ceux qui y débarquaient. Mais dans le temps que nous nous divertissions à boire et à manger, l'île trembla tout à coup et nous donna une rude secousse. Car ce que nous avions pris pour une île était le dos d'une baleine. Les plus rapides se sauvèrent dans la barque, d'autres se jetèrent à la nage. Pour moi, j'étais encore sur la baleine lorsqu'elle se plongea dans la mer, et je n'eus que le temps de saisir une pièce de bois qu'on avait apportée du vaisseau pour faire du feu. Cependant, le capitaine, après avoir reçu à son bord les gens qui étaient dans la barque et recueilli quelques-uns de ceux qui nageaient, voulut profiter d'un vent frais et favorable qui s'était élevé. Il fit hisser les voiles et m'ôta par là l'espérance de gagner le vaisseau. Après avoir été longtemps ballotté à la merci des flots, je fus jeté sur une île. Je m'étendis sur la terre, où je demeurai à demi-mort, jusqu'à ce qu'il fût grand jour et que le soleil parut. Je me traînai alors en cherchant des herbes bonnes à manger. Les forces m'étant revenues, je m'avançai dans l'île au hasard. À la fin, je rencontrai quelques hommes qui se trouvèrent être des serviteurs du roi Mirage. Ils furent émerveillés de mes aventures que je leur racontai et me présentèrent au roi qui me reçut fort bien et ordonna qu'on eût grand soin de moi. Un jour que je regardais débarquer des marchandises dans le port, je remarquai des ballots sur lesquels mon nom se trouvait écrit. Après les avoir examinés, je ne doutais pas que ce fût ceux que j'avais chargés sur le vaisseau où je m'étais embarqué à Bassora. Je reconnus même le capitaine, mais j'eus quelque peine à me faire reconnaître de lui. J'y parvins cependant, et je lui racontai de quelle manière je m'étais sauvé et par quelle aventure j'avais rencontré les serviteurs du roi Mirage qui m'avaient amené à sa cour. « Dieu soit loué, me dit le capitaine, de ce que vous êtes heureusement échappé d'un si grand danger. Je ne puis assez vous marquer le plaisir que j'en ressens. Voilà vos marchandises, prenez-les, elles sont à vous, faites-en ce qu'il vous plaira. » Je le remerciai et le félicitai pour son honnêteté. Et je le priai d'accepter quelques marchandises que je lui présentai, mais il les refusa. Je choisis ce qu'il y avait de plus précieux dans mes ballots et j'en fis présent au roi Mirage. Comme ce prince savait le malheur qui m'était arrivé, il me demanda où j'avais pris des choses si rares. Je lui contai par quel hasard je venais de les récupérer. Il eut la bonté de m'en témoigner de la joie. Il accepta mon présent et m'en fit de beaucoup plus considérable. Après cela, je lui dis au revoir et me rembarquai sur le même vaisseau. Mais avant mon embarquement, j'échangeai les marchandises qui me restaient contre d'autres marchandises du pays. J'emportai avec moi du bois d'aloès, du santal, du camphre, de la muscade, du clou de girofle, du poivre et du gingembre. Nous passâmes par plusieurs îles et nous abordâmes enfin à Bassora, d'où j'arrivais, en cette ville de Bagdad, avec la valeur d'environ 100 000 sequins. C'est la monnaie de ce pays-là. Ma famille me reçut et je la revis avec joie. J'achetai des esclaves, hommes et femmes, de belles terres, et construisis une grosse maison. Ce fut ainsi que je m'établis, résolu d'oublier les malheurs que j'avais soufferts et de jouir des plaisirs de la vie. Second voyage de Sindbad le marin. J'avais décidé, après mon premier voyage, de passer tranquillement le reste de mes jours à Bagdad, comme je vous l'ai déjà dit. Mais l'envie de voyager et de faire du commerce par mer me reprit. J'achetai des marchandises et je partis une autre fois avec d'autres marchands. Nous nous embarquâmes sur un bon navire et après nous être recommandés à Dieu, nous commençâmes à naviguer. Nous allions d'île en île et y faisions des trocs, c'est-à-dire des échanges de marchandises contre d'autres marchandises fort avantageux. Un jour, nous descendîmes dans une de ces îles, couverte de plusieurs sortes d'arbres fruitiers, mais absolument désertes. Nous allâmes prendre l'air dans les prairies et le long des ruisseaux qui les arrosaient. Pendant que les uns s'amusaient à cueillir des fleurs et les autres des fruits, je pris mes provisions et du vin que j'avais apporté, et je m'assis près d'une eau coulante entre de grands arbres qui formaient un bel ombrage. Je fis un assez bon repas de ce que j'avais pris, après quoi je m'endormis. Quand je me réveillai, je ne vis plus le navire à l'ancre, ni aucun des marchands qui était descendu dans l'île avec moi. J'aperçus seulement le navire à la voile, mais si éloigné, qu'il disparut peu de temps après à mes yeux. Désespéré, je me mis à errer dans l'île, m'éloignant de plus en plus du rivage. Soudain, j'aperçus une boule blanche d'une hauteur et d'une grosseur prodigieuse, et il me parut qu'il était impossible de monter dessus tant elle était unie et lisse. Elle pouvait avoir 50 pas de tour. Le soleil était alors près de se coucher. L'air s'obscurcit tout à coup, comme s'il eût été couvert d'un nuage épais. Mais si je fus étonné de cette obscurité, je le fus bien davantage quand je m'aperçus que ce qui la causait était un oiseau d'une grandeur et d'une grosseur extraordinaires qui s'avançait de mon côté en volant. Je me souvins alors de l'oiseau appelé Roc, et je compris que la grosse boule que j'avais tant admirée devait être un œuf de cet oiseau. En effet, il s'abattit dessus comme pour le couver. En le voyant venir, je m'étais serré fort près de l'œuf, de sorte que j'eus devant moi un des pieds de cet oiseau, et ce pied était aussi gros qu'un tronc d'arbre. Je m'y attachai fortement avec la toile dont mon turban était environné, dans l'espoir que le roc, lorsqu'il reprendrait son vol, m'emporterait hors de cette île déserte. Effectivement, après avoir passé la nuit en cet état, dès qu'il fut jour, l'oiseau s'envola et m'enleva si haut que je ne voyais plus la terre. Puis il descendit tout à coup avec une grande rapidité. Lorsque le roc se fut posé et que je me vis à terre, je détachai promptement le nœud qui me tenait attaché à son pied. J'avais à peine achevé de me détacher qu'il donna un coup de bec sur un serpent d'une longueur inouïe, il le prit et s'envola aussitôt. Le lieu où me laissait l'oiseau roc était une vallée très profonde, environnée de toutes parts de montagnes si hautes qu'elles se perdaient dans les nuages, et tellement escarpée, tellement raide, tellement abrupte, qu'il n'y avait aucun chemin par où l'on pût y monter. En marchant par cette vallée, je remarquai qu'elle était parsemée de diamants d'une grosseur surprenante. Je pris beaucoup de plaisir à les regarder, mais j'aperçus bientôt un grand nombre de serpents si gros et si longs que le plus petit d'entre eux aurait pu avaler un éléphant. Ils se retiraient pendant le jour dans leur grotte, où ils se cachaient par peur de l'oiseau roc, leur ennemi, et n'en sortaient que la nuit. Le soleil se coucha. À l'entrée de la nuit, je me retirai dans une grotte où je jugeai que je serais en sûreté. J'embouchai l'entrée qui était basse et étroite avec une pierre assez grosse pour me garantir des serpents. Leurs affreux sifflements me causèrent une frayeur extrême et ne me permirent pas de passer la nuit fort tranquillement. Le jour étant venu, ils se retirèrent. Alors je sortis de ma grotte en tremblant. Tout à coup, je vis tomber près de moi une grosse pièce de viande fraîche. Et dans le moment, j'en vis rouler plusieurs autres du haut des rochers en différents endroits. Vous saurez qu'un certain nombre de marchands se rendent auprès de cette vallée lorsque les aigles ont des petits. Ils découpent de la viande et la jettent par grosses pièces dans la vallée. Les diamants, sur la pointe desquels elles tombent, s'y attachent. Les aigles vont saisir ces pièces de viande et les emportent dans leur nid, au haut des rochers, pour servir de pâture à leurs aiglons. Alors les marchands, courant au nid, obligent par leurs cris les aigles à s'éloigner et prennent les diamants qu'ils trouvent attachés aux pièces de viande. Je commençai par ramasser les plus gros diamants et j'en remplis le sac qui m'avait servi à mettre mes provisions. Je pris ensuite la pièce de viande qui me parut la plus longue, je l'attachai fortement autour de moi avec la toile de mon turban et en cet état, je me couchai le ventre contre terre, la bourse de cuir attachée à ma ceinture, de manière qu'elle ne pouvait pas tomber. Je ne fus pas plutôt en cette situation que les aigles vinrent chacun se saisir d'une pièce de viande qu'ils emportèrent. Et un des plus puissants, m'ayant enlevé de même avec le morceau de viande dont j'étais enveloppé, me porta au haut de la montagne jusque dans son nid. Les marchands vinrent alors crier pour épouvanter les aigles, et lorsqu'ils les eurent obligés à quitter leur proie, un d'entre eux s'approcha de moi, mais il fut saisi de crainte quand il m'aperçut. Je le rassurai en lui contant mon stratagème qui l'étonna fort, ainsi que les autres marchands qui étaient accourus au bruit de notre conversation. Ils m'emmenèrent au logement où ils demeuraient tous ensemble. Et là, ayant ouvert ma bourse en leur présence, je leur montrai mes diamants dont la grosseur les surprit. Je priai le marchand à qui appartenait le nid où j'avais été transporté, car chaque marchand avait le sien, d'en choisir pour sa part autant qu'il en voudrait. Il se contenta d'en prendre un seul, encore le prit-il parmi les moins gros. Et comme je le pressais d'en recevoir d'autres, sans crainte de me faire du tort, « Non, dit-il, je suis fort satisfait de celui-ci, qui est assez précieux pour m'éviter la peine de faire désormais d'autres voyages pour l'établissement de ma petite fortune. » Il y avait déjà plusieurs jours que les marchands jetaient des pièces de viande dans la vallée. Nous partîmes donc tous ensemble le lendemain. Je passe sous silence plusieurs autres particularités de cette île, de peur de vous ennuyer. J'y échangeai quelques-uns de mes diamants contre de bonnes marchandises. De là, nous allâmes à d'autres îles, et enfin, après avoir touché à plusieurs villes marchandes de terre ferme, nous abordâmes au port de Bassora, d'où je me rendis à Bagdad. J'y fis en premier lieu de grandes aumônes aux pauvres. Je jouis honorablement du reste de mes richesses immenses que j'avais apportées et gagnées avec tant de fatigue. Troisième voyage de Sindbad le marin. J'eus bientôt perdu dans les douceurs de la vie que je menais le souvenir des dangers que j'avais courus dans mes deux voyages. Je m'ennuyais de vivre dans le repos et je partis de Bagdad avec de riches marchandises que je fis transporter à Bassora. Là, je m'embarquai encore avec d'autres marchands. Nous fîmes une longue navigation et nous abordâmes à plusieurs ports où nous fîmes un commerce considérable. Par malheur, une tempête nous jeta dans une île sauvage. En cherchant notre vie non loin du rivage, nous aperçûmes un palais qui avait une porte d'ébène à deux battants que nous ouvrîmes en la poussant. Nous entrâmes dans une cour où il y avait d'un côté un tas d'ossements humains et de l'autre une infinité de broches à rôtir. Nous tremblâmes à ce spectacle. Soudain, la porte de l'appartement s'ouvrit avec beaucoup de bruit et aussitôt, nous en vîmes sortir un horrible géant de la hauteur d'un grand palmier. Il avait au milieu du front un seul œil. Les dents de devant, qu'il avait fort longues et fort aiguës, lui sortait de la bouche et la lèvre inférieure lui descendait sur la poitrine. Ses oreilles ressemblaient à celles d'un éléphant et lui couvraient les épaules. Il avait les ongles crochus et longs comme les griffes des plus grands oiseaux. Cependant, le monstre, après nous avoir bien considérés, s'avança vers nous. Il étendit la main sur moi, me prit par le cou et me tourna de tous les côtés comme un boucher qui regarde, qui tâte une tête de mouton. après m'avoir bien tâté, voyant que j'étais si maigre que je n'avais que la peau et les os, il me lâcha. Il prit les autres tour à tour, les examina de la même manière, et comme le capitaine était le plus gras de tout l'équipage, il le tint d'une main ainsi que j'aurais tenu un moineau et lui enfonça une broche au travers du corps. Ayant ensuite allumé un grand feu, il le fit rôtir et le mangea à son dîner dans l'appartement où il s'était retiré. Ce repas achevé, il revint sous le vestibule où il se coucha et s'endormit en ronflant d'une manière plus bruyante que le tonnerre. Son sommeil dura jusqu'au lendemain matin. Le jour étant venu, le géant se réveilla, se leva, sortit et nous laissa dans le palais. Nous passâmes la journée à parcourir l'île en nous nourrissant de fruits et de plantes comme le jour précédent. Sur le soir, nous cherchâmes quelque endroit pour nous mettre à l'abri des bêtes féroces, mais n'en trouvâmes point. Et nous fûmes obligés, malgré nous, de retourner au palais. Le géant dîna encore d'un de nos compagnons. Puis il s'endormit et ronfla jusqu'au jour. Après quoi il sortit et nous laissa comme il l'avait déjà fait. Je conseillai alors à mes compagnons de construire des radeaux qui pourraient nous servir à fuir si nous parvenions à nous délivrer du monstre. Nous passâmes la journée à cette entreprise et retournâmes au palais vers la fin du jour. Il fallut encore nous résoudre à voir rôtir un de nos compagnons. Mais après que le géant eut achevé son détestable souper, il se coucha sur le dos et s'endormit. Dès que nous l'entendîmes ronfler, 9 des plus hardis d'entre nous et moi, nous prîmes chacun une broche et nous en mîmes la pointe dans le feu pour la faire chauffer au rouge, et ensuite nous la lui enfonçâmes dans l'œil en même temps et nous le lui crevâmes. La douleur que sentit le géant lui fit pousser un cri effroyable. Il se leva brusquement et étendit les mains de tous côtés pour se saisir de quelqu'un de nous, mais nous eûmes le temps de nous jeter contre terre dans les endroits où il ne pouvait pas nous attraper. Après nous avoir cherchés vainement, il trouva la porte à tâtons et sortit avec des hurlements encore plus épouvantables. Nous courûmes vers le bord de la mer, dans l'endroit où étaient nos radeaux. Nous les poussâmes jusqu'à l'eau et nous nous embarquâmes. Mais à peine fut-il jour que nous aperçûmes notre cruel ennemi, accompagné d'un assez grand nombre d'autres géants, qui marchaient devant lui à pas précipités. À cette vue, nous commençâmes à nous éloigner du rivage à force de rames. Les géants qui s'en aperçurent se munirent de grosses pierres, accoururent sur la rive, entrèrent même dans l'eau jusqu'à la moitié du corps, et nous les jetèrent si adroitement que, sauf le radeau sur lequel j'étais, tous les autres furent brisés et les hommes qui étaient dessus se noyèrent. Quand nous fûmes en pleine mer, nous devînmes le jouet du vent et des flots qui nous jetaient tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Enfin, nous eûmes le bonheur d'être poussés contre une île. Nous y trouvâmes d'excellents fruits qui nous furent d'un grand secours pour réparer nos forces. Sur le soir, nous nous endormîmes sur le bord de la mer. Mais nous fûmes réveillés par le bruit qu'un serpent, long comme un palmier, faisait de ses écailles en rampant. serpent sur la terre. Il se trouva si près de nous qu'il engloutit un de mes deux camarades malgré les cris et les efforts qu'il put faire pour se délivrer. Nous prîmes aussitôt la fuite, mon camarade et moi, pour nous réfugier sur un arbre fort haut. Mais nous entendîmes bientôt le serpent qui vint en sifflant jusqu'au pied de l'arbre où nous étions. Il s'éleva contre le tronc et, rencontrant mon camarade qui était plus bas que moi, il l'engloutit tout d'un coup et se retira. Au matin, je courus vers la mer et j'aperçus un navire assez éloigné du rivage. Je criai de toute ma force pour me faire entendre et je dépliai la toile de mon turban pour qu'on me remarquât. L'équipage m'aperçut, le capitaine m'envoya à la chaloupe, me reçut à son bord et me traita avec beaucoup de bonté. Nous parcourûmes la mer quelque temps, nous touchâmes plusieurs îles et nous abordâmes enfin à celle de Salaat, d'où l'on tire le bois de santal, qui est de grand usage dans la médecine. Nous entrâmes dans le port et les marchands commencèrent à faire débarquer leurs marchandises pour les vendre ou les échanger. Le capitaine me proposa alors de faire commerce avec des marchandises qui appartenaient à un marchand qui avait été dans son bateau, mais qui était mort. Et je reconnus sur ces ballots mon nom, Sinbad le marin. « Eh bien, capitaine, ouvrez les yeux, reconnaissez ce Sinbad que vous laissâtes dans une île déserte. » Je m'endormis au bord d'un ruisseau, et quand je me réveillai, je ne vis plus personne de l'équipage. Le capitaine me reconnut. « Dieu soit loué !» s'écria-t-il en m'embrassant. « Je suis ravi que la chance ait réparé ma faute. Voici vos marchandises que j'ai toujours pris soin de conserver et de faire valoir dans tous les ports où j'ai abordé. Je vous les rends avec le bénéfice que j'en ai tiré. » Je l'ai pris en témoignant au capitaine toute la reconnaissance que je lui devais. De l'île de Salaat, nous allâmes à une autre où je me fournis de clous de girofle, de cannelle et d'autres épices. Enfin, après une longue navigation, j'arrivai à Balsora et de là je revins en cette ville de Bagdad avec tant de richesses que j'en ignorais la quantité. J'en donnai encore aux pauvres une partie considérable et j'ajoutai d'autres grandes terres à celles que j'avais déjà acquises. Fin de la première face de la première cassette. Pour avoir le quatrième voyage de Sinbad le marin et les autres, retourne la cassette.